leur hauteur. Aujourd'hui, le crime du comte Neuville, d'Amélie Nothomb. Donc, je commence par le chant premier de l'Iliade, d'un certain Homère. Chante, déesse, la colère du Pélide, Achille, pernicieuse colère qui valut aux Achéens d'innombrables malheurs, précipita chez Hadès les âmes généreuses d'une foule de héros et fit de leur corps la proie des chiens et de tous les oiseaux. Ainsi s'accomplissait la volonté de Zeus, depuis le moment où, sitôt après leur querelle, se séparèrent l'Atride, roi des guerriers, et le divin Achille. Quel dieu les jeta dans la lutte ? Et dans ce désaccord, le fils de Latone et de Zeus, c'est lui qui, irrité contre le roi, suscita dans l'armée une contagion funeste. Et les combattants périssaient parce que l'Atride avait outragé Chrysès, ministre des prières. Chrysès, en effet, était venu vers les rapides vaisseaux des Achéens pour racheter sa fille. Il apportait une immense rançon, tenait en ses mains, tombant du haut de son sceptre d'or, les bandelettes d'Apollon dont le trait porte loin, et suppliait tous les Achéens, surtout les deux Atrides, ordonnateur des troupes. Atrides, et vous autres, Achéens, aux belles Cnémides, que les dieux qui habitent les demeures de l'Olympe vous donnent de détruire la ville de Priam et de revenir heureusement chez vous. Puissiez-vous aussi délivrer ma chère fille et recevoir toute cette rançon par égard pour le fils de Zeus, Apollon, dont le trait porte loin. Il s'agit bien sûr de l'invocation à la muse. C'est ça qui est magnifique, c'est que toutes les œuvres de l'Antiquité commencent par l'invocation à la muse. Et ici, comme il s'agit d'un chant guerrier, je trouve qu'on peut comparer ça au fameux haka, vous savez, des Néo-Zélandais. Il faut imaginer ça dit avec une voix autrement violente que la mienne, et peut-être même avec en tapant les pieds par terre. C'est une lecture qui m'a sauvé la vie. Puisque quand j'avais 15 ans, j'allais extrêmement mal, j'étais au dernier degré de l'anorexie et j'étais très consciente que mon cerveau était en train de fondre. Et j'ai eu ce projet fou et salvateur à 15 ans de retraduire seule dans mon coin l'Iliade et l'Odyssée. Et j'ai fait cette tâche absolument pharaonique de retraduire seule l'Iliade et l'Odyssée à 15 ans. Je ne peux pas vous garantir que ma traduction était extraordinaire, mais s'il me reste un cerveau, c'est bien grâce à cette traduction. Rien n'a autant étayé mon cerveau que l'apprentissage assidu de ces deux langues. Et je pense que si je suis un écrivain aujourd'hui, c'est parce que j'ai profondément traduit le grec et le latin. Toute littérature, tout livre est soit une Iliade, soit une Odyssée. Et j'ai choisi l'Iliade parce que, bien évidemment, mon livre est une Iliade.
Alors, nous allons entrer dans votre Iliade. Le crime du comte Neuville, Amélie Nothomb.
Oui, alors c'est
qui
évidemment.
Paraît aux éditions Albin Michel.
C'est beaucoup moins sérieux. Mais je soutiens que c'est une Iliade parce que pour moi, c'est quand même un récit de guerre. Il y a un combat, nous ne dirons pas lequel, et l'issue n'en sera donnée qu'à la toute dernière page. Si l'on avait annoncé au comte Neuville qu'il se rendrait un jour chez une voyante, il ne l'aurait pas cru. Si l'on avait précisé que ce serait pour y chercher sa fille, qui aurait fait une fugue, cet homme sensible se serait évanoui. Un genre de secrétaire lui ouvrit et le conduisit jusqu'à une salle d'attente. « Madame Portenduère va vous recevoir très vite. » On se serait cru chez le dentiste. Neville s'assit très raide et regarda avec perplexité les motifs tibétains qui décoraient les murs. Quand il se retrouva dans le cabinet de la voyante, il demanda aussitôt où était sa fille. « La petite dort dans la pièce d'à côté, » répondit la dame. Neville n'osa parler. Allait-on exiger de lui une rançon ? La voyante, une femme sans âge, énergique, rondelette, d'une extrême vivacité, reprit la parole. « Hier après minuit, je me promenais dans la forêt non loin de votre domaine. La lune éclairait presque comme en plein jour. C'est là que je suis tombée sur votre fille, roulée en boule, qui claquait des dents. Elle n'a rien voulu me dire. Je l'ai convaincue de m'accompagner. Elle allait mourir de froid si elle restait dehors. Arrivée ici, j'ai voulu vous appeler tout de suite pour vous rassurer. Elle a dit que c'était inutile, que vous n'aviez pas remarqué sa disparition. » C'est exact. J'ai donc attendu ce matin pour vous téléphoner. Comment est-il possible que vous n'ayez pas remarqué l'absence de votre fille, monsieur ? Elle a dîné avec nous, puis elle est montée dans sa chambre, comme chaque soir. Elle a dû sortir quand nous étions déjà couchés. Comment était-elle au dîner ? À son habitude, elle n'a pas prononcé un mot, n'a guère mangé et n'a pas semblé en grande forme. La voyante soupira. « Ça ne vous inquiète pas d'avoir une fille dans cet état ?» Elle a 17 ans. « L'explication vous suffit ?» Neville fronça les sourcils. De quel droit cette femme l'interrogeait-elle ? « Je me doute que mes questions vous choquent, mais c'est moi qui ai trouvé votre fille dans la forêt en pleine nuit. Comprenez mon étonnement. Je lui ai demandé si elle avait un rendez-vous amoureux et elle m'a regardé avec stupéfaction. » « Ce n'est pas son genre, en effet. »« C'est quoi son genre ?»« Je ne sais pas. C'est une adolescente taciturne. »« Vous n'avez jamais pensé à lui procurer une aide psychologique ?»« Bon, elle est renfermée. Ce n'est pas une maladie. »« Quand même, elle a fugué. »« C'est la première fois. » Monsieur, je vous trouve étrangement peu inquiet. Neville réprima sa colère d'être jugé par une inconnue. Ce matin, quand la voyante lui avait appris la nouvelle au téléphone, il avait été bouleversé. Mais il n'était pas homme à montrer ses émotions. Je me mêle de ce qui ne me regarde pas, d'accord, reprit-elle. Vous l'auriez vue grelottant seule dans la forêt. Elle n'avait même pas emporté une couverture ou un manteau. Cette petite me touche, elle est si mal dans sa peau. Je me demande si vous vous intéressez assez à ses ressentis. Le dernier mot frappa le comte comme une gifle. Ce n'était pas la première fois qu'il l'entendait. Depuis quelques années, pour d'obscures raisons, les gens ne se satisfaisaient plus des termes sentiments, sensations ou impressions qui remplissaient pourtant parfaitement leur rôle. Il fallait qu'ils éprouvent des ressentis. Neville était allergique à ce vocable aussi ridicule que prétentieux. La voyante perçut son irritation et se dit que le coup avait porté. Ce père prendrait désormais ses responsabilités plus au sérieux. Neville se leva, l'air de penser qu'il en avait assez entendu. La voyante le rejoignit et lui saisit la main en un geste d'enthousiasme, comme pour lui signifier qu'elle était de son côté. Mais elle changea d'expression en lui touchant la paume. « Vous allez bientôt donner chez vous une grande fête, » dit-elle. « En effet. » « Lors de cette réception, vous allez tuer un invité. »« Pardon ! » s'écria le comte qui blêmit. La voyante lâcha sa main et sourit. « Rassurez-vous, tout se passera à merveille. Suivez-moi, nous allons réveiller votre fille. » Sans cette prédiction de dernière minute, Neville aurait réservé à cet instant un trésor d'effusion. Mais quand il entra dans la pièce, il était plus raide que jamais. La jeune fille allongée sur un lit de camp ne dormait pas. « Bonjour papa, » dit-elle posément. « Bonjour ma chérie, comment vas-tu ? » Sans écouter la réponse, il se retourna vers la voyante dans l'espoir qu'elle les laisserait seules. Visiblement, elle tenait à assister à ces retrouvailles. Elle allongeait le cou et écarquillait ses yeux ronds. Comme absent à cette scène, le comte s'efforça de mimer l'émotion qu'il aurait éprouvée s'il n'y avait pas eu cette prophétie et cette prophétesse. Il vint serrer dans ses bras son enfant, qui avait l'air aussi indifférente que d'habitude. « Allons-y, » suggéra-t-il. Madame Portenduère voulut alors leur servir un petit déjeuner, mais la petite l'aida à tenir bon. « Merci, madame. Maman va s'inquiéter. Appelle-moi Rosalba et tutoie-moi, d'accord ? » ?»« Oui, » dit-elle, l'air d'espérer qu'aucune de ces deux possibilités ne se présenterait. « Si tu as besoin de parler à quelqu'un, je suis là, » ajouta la femme en remettant une carte de visite à la jeune fille. Elle entraîna encore Neville dans son cabinet, comme si cet épisode lui donnait un droit de regard sur sa conduite. « Vous devriez vous montrer plus chaleureux avec votre enfant, » dit-elle. Il était sur le point de protester que c'était entièrement de sa faute à elle s'il n'y avait pas réussi quand elle le désarçonna par cette question. « Pourquoi l'avez-vous appelé ainsi ? » ?»« Comment cela ? » ?»« On n'appelle pas sa fille sérieuse, voyons. » »« Et pourquoi non ?» dit le comte qui pensait « Vous vous appelez bien Rosalba, vous. » »« On n'est pas sérieuse quand on a 17 ans. » »« Vous commettez une faute de français. » « On entraîne l'invariabilité. » La voyante hocha la tête. « Je crois que vous avez un problème, monsieur. »« Il suffit, madame, vous avez sauvé ma fille et je vous en suis sincèrement reconnaissant. Si vous y consentez, nous en resterons là. » Tandis qu'il roulait vers le château, Neville fit des efforts pour se conduire comme un père qui retrouve sa fille après qu'elle a fugué. « Est-ce que tu as quelque chose à me dire, ma chérie ?»« Pas spécialement, papa. » Pourquoi t'es-tu enfuie ? J'ai seulement voulu passer la nuit dans la forêt. La voyante m'a découverte et a appelé ça une fugue. Sans elle, j'aurais réintégré ma chambre à l'aube et personne n'aurait rien remarqué. Mais pourquoi ne l'as-tu pas dit à cette femme ? Je l'ai dit, elle n'en a pas démordu. Pour elle, les ados fuguent. Et pourquoi voulais-tu passer la nuit dans la forêt ? Pour savoir comment c'était. C'est la première fois que tu essaies ?
Oui.
Mais tu aurais pu mourir de froid. Je n'aurais jamais pensé grelotter à ce point une nuit de septembre. Le comte pensa qu'il n'y avait rien à redire à cette attitude. « Sais-tu qu'à ton âge, j'ai moi aussi passé la nuit en forêt, comme toi ?»« Ah oui. Si tu le veux bien, nous ne raconterons rien à ta mère, cela l'inquiéterait. »« D'accord. » Fier d'avoir eu une vraie conversation avec sa fille, Neville se détendit quand lui revint la prédiction que la voyante avait proférée. Le premier dimanche d'octobre aurait lieu la fameuse garden party annuelle du château du Pluvier. C'était l'événement mondain de cette région reculée des Ardennes belges. Il ne fallait pas songer à l'annuler. Neville était terrifié à l'idée qu'il allait y tuer l'un de ses invités. Cela ne se faisait pas. Et dire qu'il allait commettre un tel impair alors qu'il s'agirait de la toute dernière garden party du Pluvier. En effet, la famille était ruinée et n'aurait plus le droit d'entrer au château à partir du 2 novembre. Neville accordait une importance d'autant plus grande à cette ultime garden party où il entendait célébrer l'honneur familial pour la dernière fois en réjouissant ses hôtes. Ce n'était pas en assassinant l'un d'entre eux qu'il y parviendrait. Il creva. Ni le père ni la fille ne savaient changer un pneu. « Nous ne sommes qu'à 2 kilomètres du Pluvier. Marchons. J'enverrai ton grand frère s'occuper de la voiture. » Ne pas parler quand on conduit est normal, et même bien vu, c'est l'attitude du chauffeur concentré. Ne pas parler quand on marche auprès de sa fille est plus discutable. Le comte s'efforça de trouver quelques propos de circonstance. « Raconte-moi ta nuit en forêt, ma chérie. » Au début, tout était merveilleux. La chouette criait, l'air sentait bon. Je me suis couchée sur la mousse avec un oreiller de feuilles mortes. J'entendais courir les chevreuils. Très vite, j'ai été saisie par le froid et tout est devenu hostile. Tu aurais pu rentrer, ne serait-ce que pour aller chercher une couverture. Je m'étais juré que non. Il sourit. Ce genre de pari lui paraissait typique de l'adolescence. Et puis, Madame Portenduère est arrivée. Elle m'a tendu sa cape. Elle est gentille, mais un peu... Je ne sais pas comment dire. « Je crois te comprendre. Elle cherchait des champignons particuliers qu'il faut cueillir après minuit. Allons bon, un truc de voyante sans doute. » Neville se rappela l'injonction de cette femme. Elle lui avait suggéré de s'intéresser au ressenti de sa fille. Il se mit à espérer que Sérieuse n'avait pas de tels traumas et tenta l'expérience. « Parle-moi de tes ressentis, ma chérie. »«
De mes quoi ?»«
Tes ressentis. » Il avait honte rien que de prononcer ce mot.
« Excuse-moi, papa, cette question est ridicule. »
Rassuré, il garda le silence. Au loin, ils aperçurent une tour du château, encaissée au cœur de la forêt. Le comte sentit que sa fille partageait son émotion, comme ils aimaient ce lieu, comme ils souffraient à l'idée de le perdre. Le plus dur était que désormais, ils ne pourraient plus défendre ce havre. En Belgique, il n'y a pas de loi pour protéger les monuments historiques. Rien n'empêcherait les futurs propriétaires de raser cette construction de 1799 et l'antique forêt qui l'entourait. Ne plus posséder cet endroit de rêve n'était pas grave, mais qu'il soit détruit, même à titre d'hypothèse, les suppliciait tous les deux. C'est triste, n'est-ce pas ?
Oui.
Ils auraient trouvé indigne d'ajouter quoi que ce fût. Ils savaient qu'en 2014, déplorer la perte du château familial eût été obscène. Comme le rappelait Neville, il était déjà remarquable d'avoir pu garder le Pluvier si longtemps. Il conserverait toutefois la maison au pied du château, l'aumônière, qui avait abrité naguère des métayers. Il ne serait pas des sans-logis. Mais en cas de destruction du château et de la forêt, il serait aux premières loges pour assister au désastre. Le livre est un conte, et un conte qui a tous les attributs du conte. D'abord, il reprend, comme la plupart des contes, il reprend un argument connu. Ici, l'argument est d'Oscar Wilde, le crime de Lord Arthur Saville, qui est un conte lui aussi. L'argument est très plaisant. Bon, Lord Arthur Saville, lors d'une réception mondaine, se voit recommander un chiromancien à la mode. Il va voir le chiromancien et le chiromancien lui annonce qu'il va tuer quelqu'un. Et Neville est épouvanté parce que ça ne se fait pas. Et en plus, il est sur le point de se marier. Il se dit il faut absolument que j'assassine vite quelqu'un. Comme ça, je serai débarrassé de cette tâche et je pourrai me marier comme un homme respectable. Bon... On ne racontera pas plus loin. Je dirais que la prédiction que subit mon pauvre comte Neville est beaucoup plus grave que celle de Saville, parce que Saville, on lui dit simplement qu'il va tuer quelqu'un, ce qui peut franchement arriver à tout le monde. Tandis que Neville, on lui annonce qu'il va tuer un invité, et ça c'est beaucoup plus grave. Parce que l'invité, c'est pas n'importe qui. Neville a passé sa vie à avoir des invités, il a une religion de l'invité. Et l'idée de commettre un impair aussi colossal le consterne. En même temps, lui aussi, comme Saville, prend la prédiction véritablement comme un ordre. Et donc, il essaye d'inaugurer une vraie stratégie. Il se dit, puisque je vais devoir tuer un de mes invités, autant décider à la base lequel je vais tuer. Bon, c'est la guerre. C'est la guerre et vous n'avez encore rien vu. Là, on sent tout de suite que ça va très mal se passer. Il est question d'un territoire qui a été âprement défendu jusque-là. Mais ça va empirer quand le comte va s'apercevoir qu'au sein même de son camp, c'est là que sévit la guerre la plus âpre et la plus inattendue. Je ne sais pas au juste en quoi je crois, mais je suis terriblement superstitieuse. Je suis persuadée que toutes les prédictions sont vraies. Et donc, je voulais une solution qui satisfasse tout le monde et qui me satisfasse aussi. Je l'ai trouvée, mais de justesse. Vous n'avez pas idée du nombre de choses que j'ai écrites qui se sont réellement produites. Donc, je pense qu'il suffit que je n'y croie pas pour être sûre que ça va se produire. Et il y a un vrai retour des voyantes, sauf qu'aujourd'hui, elles ne sont plus du tout vues comme des êtres maléfiques, elles sont vues comme des psys. Je ne sais plus le nombre d'amis ou d'amies qui m'ont dit « Tu sais, je suis allée voir une voyante parce que ça coûte beaucoup moins cher qu'un psy et ça fait beaucoup plus de bien. » Je trouve ça très sympathique de voir les choses comme ça, mais moi, je suis restée très années 20. Les voyantes me font une peur terrible. Je me suis demandé non pas quelle musique irait bien avec moi, mais quelle musique irait bien avec Oscar Wilde. Alors je ne connais pas la réponse de Wilde à cette question, mais je ne connais que la mienne. Vous allez voir que ça ira bien.
Merci beaucoup.
Merci.
C'était Amélie Nothomb qui présentait son roman Le crime du comte Neville, à paraître aux éditions Albin Michel. Les Bonnes Feuilles, Sandrine Trainer, Anne-Vanessa Prévost, Somanina, Manuel Couturier.